RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barthes.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL Équipe, c'est un plaisir de vous retrouver. 11h30, 12h30, c'est Carrément Vélo, toute l'actu disséquée et analysée par nos spécialistes. Retour sur une semaine particulièrement riche en actualité. Coup double d'Alberto Contador, victoire d'étape hier et maillot rose sur les épaules, un leader du Giro qui est toujours sous la menace d'une suspension. Nos spécialistes nous diront ce qu'ils en pensent et ce qu'ils pensent également de cette fameuse liste secrète de l'UCI, simple document de travail ou réel recensement de tricheurs. Un mot également sur la victoire de Romain Feuillu sur le Tour de Picardie, sans oublier bien évidemment un hommage particulièrement appuyé à Wouter Weiland, décédé malheureusement lors de la troisième étape du Giro. Une bien mauvaise nouvelle pour tout le monde du vélo. C'est Carrément Vélo, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
RTL l'équipe, Carrément Vélo.
Et c'est promis, pendant une heure, nous ne parlerons pas de l'affaire DSK, nous parlerons vélo uniquement. Pour réagir à l'émission, poser une question à nos spécialistes, direction la page Facebook de Carrément Vélo. Je vous rappelle l'adresse pour écouter ou réécouter l'émission en podcast. Vous allez sur RTL.fr, vous cliquez sur podcast. Nicolas Pertuis, bonjour.
Bonjour à tous.
J'accueille Frédéric Millet du Cycle. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et je demande un petit peu d'attention pour saluer Pierre Saviac. Bonjour Pierre.
Bonjour, si on parle pas de DSK, on peut parler de HTC, on est d'accord?
On peut parler de HTC, il n'y a pas de souci.
Bien la musique.
Ah, c'est pas mal, on est dans le tempo pour débuter cette émission riche, actualité tout au long de la semaine, bien évidemment. Vous le savez, on débute par le Tour d'Italie, par le Giro, coup d'oublière d'Alberto Contador, vainqueur d'étape au sommet de l'Etna et qui endosse donc le maillot rose de leader. Tiens, pour débuter, Pierre Salviac, vous avez suivi l'étape hier?
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Et alors
attends, bien sûr. J'ai deux choses. C'est clair que l'Etna, puisque c'était l'étape de l'Etna, du volcan sicilien, l'Etna, la montagne n'a pas accouché d'une souris, parce que quand c'est Contador qui gagne et qui prend le maillot rose, sportivement parlant, il y a de bonnes raisons de penser que c'était une belle étape. En revanche, j'avais été conditionné par tout ce qui avait été dit avant autour de l'Etna, les conditions particulières, ce volcan qui était en éruption 3 jours avant, les bénévoles qui s'étaient dévoués pour remettre la route en bon état, le million de spectateurs qu'on nous avait annoncé sur le bord de route. Et là, de ce point de vue-là, j'ai été très déçu, parce que de mémoire, je pense que les images d'une ascension du Ventoux étaient pour moi plus spectaculaires que celles de l'ascension de l'Etna.
D'accord, on nous survend le Tour d'Italie.
Disons que le papier de Brunel dans l'équipe était magnifique, remarquablement bien écrit. Il nous appâtait, s'agissant du décor. Peut-être que finalement la télévision en direct est réductrice. Parce que finalement, j'ai retrouvé le décor que décrivait l'envoyé spécial de l'équipe une fois la ligne d'arrivée franchie par Contador grâce au plan général d'hélicoptère.
Nicolas Pertuis. Apparemment, Pierre Salviac a été déçu pas par le spectacle lui-même, concernant.
Je reviens sur le
plus sportif, par le décor,
parce que
voilà.
C'est ce qui m'intéresse. Je crois qu'il ne peut rien arriver à Alberto Contador car il roule avec Jésus. Donc,
il roule avec Jésus, c'est-à-dire
Jesús Hernández, son coéquipier. Moi, je suis épaté de le voir hier dans les 20 premiers.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Pas grand-chose, c'est juste une constatation. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne refera pas Alberto Contador. Quand je le vois prendre le maillot à 15 jours de l'arrivée, je me dis « Ouh, le vilain petit canard, il a recommencé ». Je sais que tous les directeurs sportifs qui travaillent à ses côtés essayent de le freiner. Alain Galopin n'a fait que ça les années où il était avec lui. L'année où il gagne le Giro et l'année où il gagne le Tour d'Espagne, il s'est pris la tête avec lui pendant des jours et des jours pour ne pas que l'équipe ait à tenir la course pendant X jours. Parce qu'il faut la tenir, la course. Et sur ce Giro, il va falloir la tenir la dernière semaine et ça va être très, très, très compliqué. Alors, je vois que Jésus...
Il est en forme.
Il est en forme. Donc, je me dis, allez, ça va aller. Mais 15 jours, c'est beaucoup. Et j'ai lu, je ne sais pas où, hier soir, que... Il n'y avait pas de plan. Alors, à la Saxo, on nous fait toujours des plans. Mais là, il n'y avait pas de plan. Et finalement, il a attaqué.
Si, il y a peut-être un plan.
C'est compliqué. Ça va être compliqué. Et là, il a quand même donné... Même si aujourd'hui, on a l'impression que ça va être facile pour lui.
Oui.
J'ai quand même l'impression qu'il a donné des bâtons à ses adversaires pour qu'ils le battent.
D'accord.
Parce que quand on connaît les Italiens, on n'est pas dans le Tour de France. Ce n'est pas les mêmes responsabilités. On a l'impression que c'est... pas la même importance, une deuxième place ne reprenant peut-être pas la même chose. Et quand on connaît des Scarponi, quand on est une équipe comme Androni, qu'une équipe chieuse pour un leader sur un grand tour, Je me dis Alberto Contador, il va falloir qu'il soit très, 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 très fort pour gagner ce Giro.
On l'a compris, il n'a pas encore tué la course. Frédéric Millet, vous êtes d'accord avec Nicolas Pertuis? Même si aujourd'hui...
Non, moi non.
Ah, d'accord, Pierre Salvéac. Et d'abord Pierre, Frédéric et juste Pierre derrière.
Bah, concernant Contador, moi une fois de plus, je vois qu'il est exact au rendez-vous. C'est-à-dire que ça soit n'importe quelle course, c'est un coureur fiable. Il me fait penser, dans un autre registre, il y a Philippe Gilbert sur les classiques. On sait qu'il sera toujours là. Contador, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qu'on voit pas, on sait pas. Par exemple, Menchoff hier, je l'ai pas vu. Il y a des coureurs qui sont pas présents au rendez-vous. Lui, il est toujours là. Et puis, de quelle façon, on peut pas dire qu'il ait manqué de panache. Hein. Il a pas attendu les derniers 500 mètres pour faire sa giclette traditionnelle. Quoi. Là, il a attaqué loin de l'arrivée, tout ça. Donc, moi, j'ai envie de dire chapeau pour Contador.
7 km, c'est pas loin de l'arrivée, excusez-moi.
C'est pas loin, mais ouais. En même temps, enfin, pour une première étape...
Il y a que ce 7 km-là qui est intéressant.
Ouais, pour une première étape, d'habitude, on sait toujours que les gars temporisent au maximum. Et là, il a tenté crânement sa chance. D'ailleurs, personne n'y a été derrière, à part Scarponi.
D'accord. Bon, Nicolas Pertuis.
Pour l'instant, je suis désolé de dire ça, mais il court à la Lance Armstrong. C'est-à-dire qu'on attend le premier massif et on fait son effort dans les derniers kilomètres du massif. Maintenant, j'attends de voir un Scarponi ou un Rurano, dont on parlait la semaine dernière, ou encore d'autres, un Anton... un Garzelli attaqué dans un col alors qu'il en restera trois derrière. J'attends de voir la réaction de Contador.
Réaction d'Alexandre également avant de passer la parole à Pierre Salvéac. Alexandre Genot, Contador est le coureur le plus intelligent depuis Fignon. Windurain, rappelez-vous le retour d'Armstrong. Il a aussi géré une pression insoutenable. Enfin, réaction de Nicolas également. Moi, je ne suis pas d'accord avec Nicolas Pertuis, il me semble. Je ne vois pas qui pourrait battre Contador. Hey. Il n'y a pas de faiblesse, ce coureur. C'est
souvent
le plus fort.
Juste pour répondre à ça, parce que c'est tout à fait vrai, hein, je veux dire, ça se défend. Hein.
Oui.
Je défends peut-être l'indéfendable là. Souvent, les grands champions, le seul ennemi qu'ils ont, c'est eux-mêmes. Et là, c'est ce que je veux faire passer comme message.
D'accord.
Simplement.
Et Nicolas va encore plus loin. A-t-il vraiment besoin de son équipe? Point d'interrogation. Pierre Salvéac.
Oui, j'entends Nicolas dire les Saxo Banks n'ont pas de plan. Si, peut-être. Vous savez, personne ne l'ignore, qu'une épée de Damoclès est sur la tête de Contador à propos de ce contrôle antidopage dans le Tour de France de l'année dernière.
On attend toujours la décision.
Qu'il pourrait être déclassé de toutes ses victoires à un moment ou à un autre. Peut-être, pourquoi pas, dans le Tour de d'Italie, même si je ne le crois pas. Et est-ce que ça serait pas une bonne stratégie de la part de Saxo Bank de se dire tout ce qui est pris n'est plus à prendre, tout ce qui est exposé est bien exposé, et que ce qui aurait été pris grâce aux exploits de Contador pour la marque Saxo Bank dans la première semaine, eh bien c'est tout bonus. Et je peux penser que dans l'esprit des dirigeants, en ayant en tête ce paramètre-là, ça peut aussi conditionner leur stratégie.
Alors là, je vais poser une question très claire, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on marche un petit peu sur la tête. Pourquoi ne pas suspendre un coureur le temps d'une enquête? Parce qu'on se retrouve toujours avec un coureur qui...
On va pas
qui
faire ce débat, Manu.
Ah bon, pourquoi? Vous dérange pas de vous retrouver avec un leader du Tour d'Italie qui peut-être...
Mais on est d'accord.
Et sous le coup d'une suspension,
qu'est-ce que ça va apporter au
et sera suspendu
au débat
d'ici
sur
quelques
le Tour
semaines
aujourd'hui. Il est dans la course, pour l'instant il est qualifié.
Mais quelle crédibilité pour le monde du vélo.
Mais on peut le regretter, je suis d'accord. Mais pour l'instant il est qualifié et il a fait appel. L'appel n'étant pas suspensif, il est dans la course. Après j'essaie d'expliquer par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, que, qu'on dirait-je, cette première semaine exceptionnelle de Contador s'explique peut-être par le fait que justement son équipe n'est pas sûre de l'avoir à la fin du tour.
Est-ce que vous trouverez ça normal de suspendre un coureur lorsqu'il est impliqué dans une action en justice?
Non, mais on l'a dit avant, donc on va pas. Qu'est-ce que vous qu'on dise de plus maintenant?
D'accord, Frédéric Millet.
Moi, j'ai occulté cette partie parce qu'à mon avis, ils vont pas arriver à le coincer. On va voir avec le TAS et l'UCI, mais.
Pour vous, il est au départ du Tour de France alors?
Ah oui.
D'accord.
Moi, je pense pas qu'il va. On verra. Hein.
Et les traces de clambutérol alors?
Justement, ils vont trouver la faille en disant que c'est tellement infime que ça va
être de plastique.
Histoire de... c'est ça le problème. C'est que tant qu'ils n'arriveront pas à trouver qu'il y a des traces de plastique, ils n'y sont pas arrivés, ils ne pourront rien contre lui. Donc avec ces 3, je ne sais pas quoi, milligrammes, ces microgrammes qu'il a de clambutérol, ils vont faire jouer comme Gasquet l'intoxication involontaire.
D'accord.
En tout cas, si l'affaire traîne, je crois qu'on parle beaucoup en ce moment, pour une autre actualité, de la présomption d'innocence.
Oui.
Bon. S'il y a si peu de doses comme comme généralement on le fait tous remarquer d'ailleurs, dans les urines de Contador. Et si l'affaire traîne du point de vue juridique, c'est précisément parce que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le choper. Alors, oublions ça momentanément, ayons ça en tête dans la perspective d'un déclassement à venir, mais dans l'état actuel des choses, moi je propose qu'on débatte du Contador coureur cycliste engagé normalement dans ce Giro et par rapport à ses performances.
D'accord, il y en a pas marre, Nicolas Pertuis, de ces coureurs qui font mouche quand on les attend. Contador au départ du Tour, il remporte le Tour, c'est le grand favori. Contador au départ du Giro, c'est le grand favori. Aujourd'hui, il est leader, il n'a pas encore remporté le Tour d'Italie, mais il est tout à fait capable de le réaliser. On constate quoi? Que sur les grands tours, aujourd'hui, il y a qu'Alberto Contador qui existe réellement.
C'est
pas dommage, ça?
Ouais, mais je me faisais la réflexion ce matin.
Qui fait quand même ce qu'il veut, Contador, finalement. On a beau dire ce qu'on veut, en forme ou pas en forme,
oui,
il gagne quand même.
Regardez, je me disais ce matin, c'est vraiment un coureur de course à étapes, parce que regardez sur les classiques, finalement, il fait pas ce qu'il veut. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que, simplement, il récupère peut-être mieux que les autres, qu'il a cette faculté de récupération que n'ont pas les autres. Parce que regardez sur une montée de huit, finalement, il ne gagne pas. Regardez même sur un Liège l'année dernière, il ne gagne pas. Donc, il n'est peut-être pas plus fort que les autres, mais il récupère peut-être mieux que les autres.
Donc, sur incontestablement le meilleur sur les courses à étapes.
Pour l'instant, l'instant. Maintenant, attendons.
Puisque tu parles de course à étapes d'un jour. Oui, course à étapes, autant pour moi. Oh, quel lapsus, ça commence bien la journée. La semaine, surtout. Non, je me mets un carton rouge. Non, mais tu parles des courses à étapes, mais normalement, je pense que une flèche vallonne avec une arrivée dans le mur de huit, c'est une course pour lui.
Oui, mais il l'a pas gagné. Il l'a fait deux fois, il l'a
et
pas
pourquoi,
gagné.
Pourquoi alors comment t'expliques ça?
Bah, voilà.
Qu'il va pas gagner.
L'année dernière, il a fait une erreur tactique dans le mur. Il a démarré trop tôt, comme Anton. Il s'est fait avoir par deux coureurs, puisqu'il fait troisième, le droit de mémoire. Et cette année, bon, soi-disant, il était malade. Donc on ne l'a pas vu, mais voilà, c'est une constatation. C'est tout.
Moi, je veux juste avoir votre regard de spécialiste. Est-ce que là, sur ces deux prochaines semaines, maintenant, sur le Tour d'Italie, on se dirige vers un Giro dominé par Alberto Contador? Alors, Nicolas a déjà apporté une réponse en pointant du doigt peut-être les faiblesses, ou peut-être pas les faiblesses, mais en tout cas la difficulté pour l'équipe Saxo-Manque de gérer véritablement deux semaines. Qui d'autre, sinon Scarponi, peut-être d'autres coureurs qui peuvent vraiment lutter pour cette victoire? Parce que si on parle du sportif, c'est ce qui nous intéresse, Frédéric Millet.
Moi, je vois qu'une défaillance qui puisse l'empêcher de gagner le Giro. Mais en même temps, moi, le Giro, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Moi, le Giro, c'est pas Contador. Là, il fait un peu comme Armstrong, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit pas qu'il peut le battre. Mais moi, la deuxième, troisième place m'intéresse aussi. Je veux voir ce que si Nibali est aussi bon que ça. Et s'il fait déjà deuxième, ça sera déjà bien. Ça veut dire que Nibali progresse, parce qu'il est quand même plus jeune que Contador. Donc je me dis, il a une marge de progression pour l'inquiéter dans les années à venir. Les autres, Scarponi, tout cela, pour moi, c'est des coureurs qui ont déjà un petit peu passé l'âge. Donc après, je pense qu'ils peuvent que décliner. Donc moi, j'attends une révélation. C'est toujours ça que j'aime bien, c'est de savoir une révélation. Et ce Giro est intéressant à ce titre-là. Après, on l'a dit.
Révélation sur
Il peut y avoir une révélation d'un jeune coureur. Hier, j'ai vu des Français qui étaient... une révélation, Manu. On a quand même Christophe Lemével qui est troisième.
Vous parlez d'une révélation ou d'une déception à venir?
On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait une très belle course. Il a été constamment là tout au long de la semaine. C'est une course d'une semaine. Après, on va voir ce qu'il tient. Mais pour l'instant, il devait être prêt pour le Giro. Chapeau Christophe Lemével. Il est troisième en étant régulier tout le temps et sans avoir pris d'échappée.
Nicolas Pertuis?
Oui, il y en a un autre qui est bien classé, qui n'a pas pris d'échappée, ce que je me rappelle de la semaine dernière. C'est un certain Arroyo. Regardez où il est au général, c'est pas mal.
Je veux pas dire, mais vous parlez, je vais me faire l'avocat du diable, mais sur Christophe Lemével,
j'ai rien dit
c'est
encore.
C'est quand même, c'est vrai, mais il a pris une échappée. C'était lors de la victoire de David Millar, lorsque David Millar endosse le maillot rose de leader. Alors certes, il n'y avait pas 3 minutes d'avance, on est d'accord, mais il s'est aussi replacé. Et il a bénéficié également.
C'est une échappée qui est pas... Moi, je distingue les échappées qui partent en costaud dans le final et les échappées, on va dire...
Carton jaune, Manu Barthes, carton jaune.
Et ce que j'appelle les échappées loterie, Manu, quand on part...
Lemével, il n'a quand même pas de chance, c'est quand même un super loser, Lemével.
Manu, arrête.
Parce qu'il est en position, il est en position d'endosser le maillot rose de leader.
Non,
et malheureusement, qui roule derrière, qui attaque derrière? David Millar. avec Lemével qui se sacrifie pour un Millard qui est battu d'avance au sprint, ça on le savait, mais qui roule du coup pour endosser le maillot rose à la place de Christophe Lemével. Et je suis sûr qu'il l'a félicité en plus à l'arrivée, tellement loser qu'il est Christophe Lemével, Nicolas Pertuis.
Je ne commenterai pas ces
points. Non mais attends, c'est une histoire de corne cul que tu nous racontes, non, c'est vrai. Non. Mais attends, tu peux pas nier quand même que sur cette première semaine, Lemével fait un bon Giro. Alors, si tu commences déjà à le tailler au bout d'une première semaine comme celle-ci, ça veut dire qu'alors...
Je le taille pas, mais je dis la vérité.
Mais non,
c'est la vérité.
T'es d'une sévérité excessive.
Non, je suis pas d'une sévérité excessive. Il est en position de prendre le maillot rose. Millard revient de l'arrière.
Moi, je défends les coureurs, monsieur.
C'est pas... Mais bon, si je peux pousser un coup de gueule.
Allez-y.
J'ai lu sur Facebook, je sais plus, Internet, des personnes qui commencent à dire « Di Gregorio et Lemével marchent parce qu'ils sont des équipes étrangères ». Je dis stop.
Je l'ai lu également.
Je dis stop.
Ah oui.
Stop, stop et stop.
Mais si.
Je réponds simplement à ces gens-là qui s'intéressent à la manière dont ces coureurs s'entraînent, qui comparent ce qui était fait l'année dernière et cette année, ils comprendront. Simplement, c'est tout. Je dis, il faut arrêter ça, il faut arrêter ce genre de discussion parce que ça n'amène à rien.
Non, mais comment traduire ça ? Moi, je vais te dire la même chose, mais je vais te dire, c'est parce qu'ils sont dans une équipe étrangère, qu'ils sont dans les courses Pro Tour, qu'ils sont dans le Giro. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi. Parce que s'ils n'étaient pas dans des équipes étrangères, tu ne les verrais pas. Donc tu pourrais pas savoir s'ils marchent ou s'ils ne marchent pas.
Quand on prend le cas de Lemével et de Gregorio, l'année dernière, ils étaient dans les équipes Pro Tour.
Oui, ils étaient.
Non, mais là, en l'occurrence, il peut y avoir deux interprétations de ça. Toi, tu interprètes ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, sans le dire.
Ce qui veut
c'est
dire.
S'ils marchent, c'est parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont dans l'équipe étrangère.
Simplement, c'est ce qui est marrant. Moi, je
le décode pas nécessairement comme ça.
Oui, moi, je le décode.
Moi, je dis, ils ont des opportunités, parce qu'ils sont dans des équipes étrangères, de faire des courses pro-tour qu'ils ne pourraient pas faire dans des équipes françaises. Et à l'occasion de ces courses pro-tour, ils ont l'occasion de montrer ce qu'ils sont capables de faire, tant
et
mieux.
Je vais apporter, juste avant de passer la parole à Frédéric Millet, peut-être une interprétation différente. Oh,
bah,
peut-être tout simplement changer d'équipe.
Voilà.
C'est un nouveau départ, ça permet de se relancer, changer ses habitudes. Et on sait très bien que quand on tombe dans une certaine routine, après plusieurs années dans une équipe, ce fut le cas pour Christophe Lemével.
Il a fait 2 ans, la Française des Jeux, arrêtez de parler de routine, c'est pas possible ça.
Ah oui, il a changé ses méthodes d'entraînement par exemple, il a changé son environnement entre le Crédit Agricole et la FDJ.
Ah, il a complètement changé, oui.
Ah bon ?
Du tout au rien.
Ah bah oui !
Du rien du tout plutôt.
Pourquoi ?
Parce qu'au Crédit Agricole, il n'avait pas d'entraîneur, il s'entraînait tout seul au Crédit Agricole.
Et il en avait un, la FDJ ?
Oui, il en avait un.
Qui ?
Bah, Frédéric Grappe.
Et aujourd'hui, c'est qui son entraîneur ?
Ça, je peux pas le dire.
Ah bah voilà, pourquoi vous voulez pas le dire ?
Parce que je ne peux pas le dire.
Et Contador, il a un entraîneur ?
Oui, d'ailleurs, pour répondre à ça, je me suis rencardé sur Contador.
Parlons-en, justement.
Allez-y.
Son entraîneur, c'est toujours Pepe Marti, le fameux Pepe Marti, qui n'est pas dans le staff de la Saxo Bank, qui n'a pas été intégré dans le staff de la Saxo Bank, mais ça reste son entraîneur.
D'accord. Frédéric Millet.
Ouais, je l'avais décodé d'une façon totalement différente de vous. Pour moi, c'est ni tout ce que vous venez de dire, c'est carrément autre chose. C'est que il y a des conjonctions de courses qui font que Lemével, il a quand même, ça a toujours été un bon coureur. Là, il se trouve troisième. Bon, faut pas non plus, dire que c'est extraordinaire. Il y a des circonstances de course qui fait que des fois, on peut être devant ou pas, et qu'une place de deuxième ou troisième, des fois passe inaperçu, mais ça veut dire très bien. Tout à l'heure, Nicolas parlait peut-être de Contador qui fait troisième de la Flèche Wallonne. Mais c'est très bien, troisième de la Flèche Wallonne. Certes, il ne gagne pas, il ne domine pas, mais c'est déjà excellent. Combien il y en a de coureurs qui font comme lui le début de saison, qui sont encore là, présents sur les classiques, qui font le Giro, qui font le Tour. Et cette année, il va tenter, on va voir, le Giro et le Tour. Il n'y en a pas 36, les autres ils arrêtent tous. Schleck il est en Californie, Levens et tout ça ils sont je ne sais pas où. Donc,
là aussi bien joué
pour
les organisateurs du Tour de la Californie. Pas mal, hein.
Qu'est-ce
pour une grande épreuve qui se veut devenir dans les prochaines années une épreuve de référence. C'est une sacrée bonne idée d'organiser la première étape dans les montagnes là-bas aux États-Unis, de se retrouver avec la neige et de voir la mêlée.
Dois-je te rappeler que
pour une première étape,
3 jours précédant l'étape de l'Etna du Tour d'Italie,
je vous parle d'un départ.
Les organisateurs du Giro envisageaient d'être contraints d'annuler cette étape. Parce que justement, le volcan était en éruption. Alors, je vais te dire, arrête.
Parce que là, il faisait beau.
Je vous pose une question, vous êtes à la place d'Angeo Zomignan. Hein,
oui.
Vous décidez de faire un départ du Tour d'Italie sur l'étape de l'Etna, tout en sachant qu'on peut l'annuler sur un départ. comme l'organisateur du Tour de Californie,
mais attends, mais...
qui est obligé de repousser le départ de son épreuve. Vous trouvez ça sérieux?
Mais quand tu organises,
vous trouvez ça sérieux?
Mais quand tu organises une course cycliste un an avant, tu connais la météo, toi?
Vous trouvez ça sérieux? Mais on peut anticiper. Anticipation, non mais sans déconner.
Ah bah alors je vais te dire, dans le Tour d'Italie là, il y a un col, je me souviens plus son nom, mais qui fait débat. Parce qu'ils ont programmé une descente de col complètement dingue avec le précipice au bout de chaque virage. Ils vont peut-être être obligés d'annuler au dernier moment ce col-là.
Ça, c'est votre cam, ça.
Mais non, mais même dans le Giro, tu vas pas dire que le Giro, ils n'ont pas d'expérience, les organisateurs du Giro. Mais même dans le Giro, des fois, ils vont trop loin et ils sont obligés de revenir et faire marche arrière. Alors, tu vas pas engueuler les organisateurs du Tour de Californie qui sont plutôt débutants par rapport à ceux du Giro, de temps en temps, de se gourer.
Bah, je suis désolé, sur 3 semaines, si on annule une étape pour des conditions météo, parce qu'effectivement, on veut proposer également un spectacle hors norme, et parfois, on est obligé de prendre des risques. Oui. Et entre décider de faire un départ dans les montagnes, dans l'Ohio, là-bas, du côté des États-Unis, où effectivement, tu as toujours ce risque de neige, surtout si on se rend un petit peu à cette période
départ
de l'année.
En descente, c'est pas mal.
Et ben voilà, mais ça, c'est votre côté un peu ouf.
Non,
hein,
non, ton argument, il tient pas, je suis désolé.
Ça, c'est vous qui le dites.
Non, mais c'est un procès d'attention.
D'accord avec Pierrot.
C'est un procès d'attention.
Manu, parce qu'à une semaine, 3 jours avant, il faisait beau au Lactao.
Ouais.
Et puis, quoi qu'il en soit, on s'en fout la première étape. Je veux dire.
Voilà.
On s'en fout parce que c'était une étape où il y avait juste, c'était pas l'étape décisive, c'était pas l'étape reine. Elle partait d'altitude, elle partait de 1800 mètres. Donc c'était pas comme si c'était une étape reine. Donc il y aura pas une étape, bon, c'est pas dramatique. Le Tour de Californie va jouer sur les deux étapes de montagne qui restent et sur le chrono.
C'est pas dramatique, sûr. Quand on est à Paris en studio, c'est pas dramatique. Mais allez dire ça à l'organisateur.
Ben moi je vais te dire, une étape qui part en altitude, des fois c'est un grand spectacle. Rappelle-toi la bande à Merckx dans un Tour de France. Donc c'est pas si con que ça d'avoir programmé un départ en altitude.
Pas encore né. Nicolas Pertuis.
Par rapport au Tour de Californie.
Par exemple. Ou revenir sur le Mével. On va fermer la parenthèse sur le Tour d'Italie. Écoutez, on va passer à autre chose.
Oui, parce que tu passes pour un gros beauf là en disant ça.
Moi je suis tout à fait content du niveau de performance de le Mével, parce que moi je parle en niveau de performance plus qu'en résultat. Je vois le Mével qui est pour l'instant dans les 15 meilleurs de ce Giro, présent sur toutes les arrivées. Alors c'est compliqué pour lui parce que il n'a pas la pointe de vitesse pour aller gagner une étape. C'est compliqué pour lui, mais moi je dis chapeau. Parce que, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il avait prévu d'être là pour le Giro. Il est là pour le Giro. Et à tous ses détracteurs, Christophe Lemaval répond simplement sur le vélo, et ça c'est bien.
Oui, mais il faut préciser que pour l'instant on n'est pas à 48 heures de l'arrivée. Hein.
On n'est pas à 48 heures de l'arrivée.
Très loin
aussi,
de l'arrivée.
Aussi, il faut noter quand même les bonnes performances de Gadret et de Hubert Dupont, qui est un coureur dont on ne parle jamais et qui sur des grands tours rentre parfois dans les 20 premiers, et c'est à noter et à signaler.
Alors, on a l'image, hein, grâce notamment à Facebook.
Réactif à nos auditeurs.
Réaction à Renaud, qui nous propose justement l'image de cette fameuse descente du Monte Crosti. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Salvier?
Je pense qu'il y a déjà eu un mort sur le Giro. Dans des conditions, j'allais dire presque banales, en ce qui concerne les conditions de course. Là, quand je vois la photo du col de Crosti, là, je dis, c'est envoyer les mecs à la mort, là. Là, c'est peut-être aller au-devant d'un deuxième mort. Et là, la responsabilité des organisateurs sera engagée en dépit des précautions qu'ils sont en train de prendre, parce qu'ils ont envoyé le directeur de la course, ils envisageaient de mettre des filets, vous savez, comme qu'on met dans les descentes
de ski.
Bon, ils commencent à se rendre compte tardivement qu'ils sont peut-être allés trop loin. Eh ben, au moment où ils se posent cette question, ils seraient bien inspirés de supprimer ce col.
Surtout qu'il y a largement de quoi faire sur ce Giro. Il y a une surenchère des difficultés, et franchement, il y a largement de quoi faire. Et d'ailleurs, il va peut-être se rendre compte, on verra l'état des coureurs dans la troisième semaine, mais ça fera peut-être comme dans le Tour de France au bout d'un temps, c'est que les gars, ils sont tellement cuits qu'ils restent ensemble pendant tous les cols qu'on leur met avant, puis ça se décante que dans les derniers.
Ouais, alors, je vais juste faire une petite remarque, parce que j'imagine, et je sais que Patrick Chassé est en train de nous écouter. Je me souviens de ses propos un jour, dans un Carrément Vélo. Et je suis tout à fait d'accord avec ses propos. Je vais les reprendre. S'il n'est pas d'accord, il peut évidemment réagir en direct sur Facebook. Un jour, je me souviens, il a dit « Qu'est-ce qui fait la beauté de ce sport ?» C'est que finalement, ce sport, parfois, dépasse le cadre de la norme.
On est d'accord là-dessus.
Et qu'il faut faire, il faut donner ça aux gens parce que faire 250 km
par jour. On est d'accord, on n'est pas obligé de les envoyer à la norme.
Monter à 2000 mètres d'altitude, faire une chute et remonter sur son vélo et descendre à 60-65 km/h, il n'y a pas de dopage pour ça. Ça s'appelle du courage. Et toute l'histoire du vélo, l'histoire du vélo, c'est construite au travers d'exploits impossibles et dangereux.
Manu, j'ai vu Rivière se casser la gueule dans le Perjuré.
Est-ce que ce n'est pas l'essence même de ce sport?
J'ai vu Ocaña se casser la gueule dans le col de Mante. Il y a un moment donné, je me dis, ça fait partie des risques, ça fait partie du métier, mais c'est aussi le métier des organisateurs de ne pas envoyer systématiquement...
Parce que ça vous intéresse, vous, de regarder une épreuve sur... Alors ok, pas de problème, on met tous les coureurs sur une autoroute,
mais
c'est pas... tout droit,
mais
sans
pas.
Précipice, là, sans danger,
tu as vu
et
la
il
ne
se passera jamais rien.
Est-ce que tu as vu la photo du col de Crostille?
Eh oui.
Bon.
Et je trouve ça terriblement excitant. Et ce jour-là, croyez-moi, je suis devant la télé.
Je te rappelle qu'il y a déjà eu un mort dans le Tour d'Italie cette année.
Nicolas Pertuis.
Je me rappelle, la semaine dernière, on n'a pas eu une discussion sur le port du casque.
Oui.
C'est vrai.
Après l'émission, peut-être.
C'était pendant l'émission.
J'ai pensé à vous, les gars, dans les heures qu'on suivit. J'ai bien pensé à vous.
C'est un peu facile, ça, Nicolas.
Non, c'est pas facile.
Si, c'est facile ce que vous faites.
C'est pas facile.
Non, parce que c'est la gueule qui a pris.
C'est pas parce que le matin.
C'est le crâne qui a pris. C'est la gueule. Et la gueule est pas.
Vous imaginez la descente du Crostille, les mecs cheveux au vent. Ça serait formidable.
Bah, je sais pas. Vous savez quoi? Moi, j'ai une des premières images qui m'a marqué, c'est la chute d'Ocaña dans la descente quand il fait
mais
ce fameux tout droit.
Demandez au père Deschlec, il était coéquipier d'Ocaña ce jour-là.
Je sais, j'étais là moi aussi.
Et bien, c'est ce qui fait l'histoire de ce sport.
Il prenait des risques incroyables, Ocaña, alors que Merckx, ce jour-là, il pouvait le rattraper après, il y avait de la plaine.
Tout à fait, mais les conditions atmosphériques étaient épouvantables.
Il pleuvait.
Comme un peu l'être dans le col de Crostille. À un moment donné, je ne suis pas sûr que ça sert la course cycliste.
Moi, je suis d'accord avec Pierre et par rapport à la descente. Là, j'ai vu les photos, je m'en suis renseigné la semaine dernière. Pour moi, il faut annuler ça.
Voilà.
Pour moi, il faut annuler ça.
Donc, on est 3 contre 1 maintenant.
Ça n'apporte rien à la grandeur de la course, même si M. Chassé n'est pas d'accord avec nous.
Non, je ne dis pas que M. Chassé, ça se trouve, il est d'accord. Je me suis permis de reprendre ses propos.
Chassé,
maintenant.
Exprime-toi, non, allez, maman.
Surtout qu'elle montait aux Ancolane.
Oui, on est d'accord. Mais en même temps, je veux prendre l'exemple d'un sport comme là. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la voile. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce sport? C'est que les mecs, ils partent, ils sont pas sûrs de revenir. C'est ça qui est magnifique. C'est que c'est une vraie aventure humaine.
Oui,
c'est que ça dépasse le cadre du sport.
Demande à Senna ce qu'il en pense.
Mais oui, mais malheureusement, ça fait aussi partie du sport. Et aujourd'hui, Senna est un symbole.
Les sports extrêmes, c'est pour générer de l'adrénaline chez les compétiteurs et chez les spectateurs. C'est pas nécessairement.
Mais c'est pas de l'adrénaline.
De les envoyer au cimetière
c'est
après.
Pas de l'adrénaline pour Puceau, comme vous l'êtes, Pierre Salvia, qu'on organise un petit spectacle à l'américaine avec des mecs qui sont soi-disant en danger alors qu'ils sont ultra protégés.
Écoute,
ça dépasse bien sur ce cadre-là. Quand les mecs ils partent en mer, ils sont pas sûrs de revenir. Les mecs ils prennent le départ du Giro, oui, il faut le dire aussi, ils sont pas sûrs de revenir.
Visiblement,
et c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi.
Visiblement, hier en Hollande, t'as fumé la moquette.
mais en attendant,
je suis désolé. Moi qui ai vécu le Perjuré et le col de Mante, moi qui ai vécu l'accident et de Rivière et d'Ocaña, je ne suis pas certain que ce genre d'accident nourrisse vraiment la légende des Tours.
Tiens, bonne réaction d'Armel également. Franck Schleck s'est cassé la clavicule sur les pavés du Nord. Faut-il supprimer les pavés de Paris-Roubaix? Bien sûr que non.
Non mais attendez,
bien sûr
c'est
que
pas
non.
La même chose. C'est pas la même chose.
C'est pas parce qu'il y a une chute dans une descente. Et évidemment, on va revenir là-dessus. Et c'est tragique, c'est tout ce que vous voulez. C'est terrible. Mais c'est pas parce qu'il y a une chute dans une descente qu'il va falloir maintenant retirer toutes les descentes des courses.
Et même
les plus dangereuses.
On ne parle pas de ça. Toutes les descentes sont dangereuses quand elles sont dans les conditions de course, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut de toute façon rattraper du temps dans la descente et qui prend des risques avec les trajectoires, etc. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'à un moment donné, la responsabilité des organisateurs de courses cyclistes, sachant que de toute façon qu'ils ont affaire à des vrais kamikazes, parce qu'il y a des coureurs qui sont des vrais kamikazes, c'est ne pas donner des bâtons pour se faire battre. Donc à un moment donné, je ne suis pas certain que des étapes et des cols de type Crostille servent les intérêts et du Giro, et en tout cas, ne servent pas les intérêts des coureurs cyclistes.
Nicolas
Perfil. Enfin, Alberto Contador, lui, il peut descendre tout ce qu'il veut, il roule avec Jésus.
Patrick Chassé qui réagit, les victimes de ce sport n'ont pas perdu la vie dans les secteurs les plus dangereux de la course. Casartelli, la course n'avait pas franchement débuté. Kivilev, il lâchait les deux mains de son guidon. C'est quand un coureur se déconcentre qu'il commet une faute. Réaction d'Alexandre également. C'est une aventure humaine. Sinon, il faut jouer au golf. Trois petits points. Magnifique, les coups de sang de... C'est quoi? Non, mais je vais pas me lancer des fleurs. En tout ça pour dire, tout ça pour dire que restez avec nous parce que dans quelques minutes, c'est la deuxième partie de Carrément Vélo. On est particulièrement en forme aujourd'hui. Il y a une riche actualité. On va y revenir, bien évidemment. Frédéric Millet du Cycle est avec nous. Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Et Pierre Salvac, restez connectés sur le www.rtl-l'équipe.fr.
RTL L'Équipe, Carrément Vélo, Emmanuel Barre.
La deuxième partie de Carrément Vélo avec Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, avec Frédéric Millet du Cycle, avec Pierre Salviac. On va laisser un petit peu entre parenthèses, bien sûr, le Tour d'Italie. On va parler pourquoi pas de la victoire de Romain Feuillet sur le Tour de Picardie. Ce n'est pas une surprise, c'est pas un exploit monumental. On va revenir sur cette liste secrète, tiens, de l'UCI. Très intéressant.
Peu Manu.
Non, vous inquiétez pas, on va évidemment questionner
c'est sur la liste,
nos spécialistes concernant cette fameuse liste secrète publiée par L'Équipe. Assez hallucinant, hein, tout de même, avec une hiérarchie, hein, de suspicion autour des coureurs, et tout particulièrement des coureurs présents sur le dernier Tour de France. Et puis on va tout de même rendre un hommage particulièrement appuyé, parce qu'on n'oublie pas évidemment cette terrible nouvelle, le décès de Wouter Weiland, le coureur du team Leopard Trek, décédé malheureusement sur la troisième étape du Tour d'Italie. On l'a dit, tout le monde du vélo est en deuil et on pense évidemment à sa famille. Midi passé de 4 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
Carrément Vélo, c'est sur RTL L'Équipe.
Alors, j'ai la liste sous les yeux et je ne vois pas Pierre Salviac dans cette liste. Ça, c'est une certitude. Pourtant, il vient tous les jours à vélo, à la radio.
Oui.
Pierre Salviac,
oui,
qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse affaire? Plus sérieusement, on va redevenir sérieux, parce que c'est vrai qu'on a tous été surpris tout de même en milieu de semaine, affaire sortie par L'Équipe avec cette fameuse liste, qui clairement affiche une hiérarchie des coureurs. Alors je ne sais pas si on peut dire suspecté, il faut rester extrêmement prudent, avec des indices en tout cas de suspicion de 0 à 10, et avec un classement donc de différents coureurs, et donc sont présents tous les noms des coureurs qui ont pris le départ du dernier Tour de France.
Alors déjà, présenter les choses comme ça, Manu, c'est une malhonnêteté intellectuelle.
Ah, d'accord. Alors, allez-y.
De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une liste de coureurs engagés dans le dernier Tour de France.
C'est ce que je viens de dire.
Non, non. Il faut bien rappeler ça. C'est une liste de coureurs engagés dans le dernier
Tour
de France.
Je crois l'avoir dit.
C'est pas tout le peloton des coureurs cyclistes professionnels.
Je crois l'avoir dit.
Bon. Donc, c'est une photo à un instant donné. D'accord? C'est une statistique avec des indices suite au contrôle de leur passeport biologique. D'accord? Bon. L'équipe a pris grand soin, en écrivant cet article, de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire croire à celui qui recevait l'information que les coureurs en question, à partir du moment où ils étaient différents de zéro, ils étaient dopés. Malheureusement, l'utilisation qui a été faite de cette révélation, de ces articles dans le journal L'Équipe, aboutit à faire croire que tous les coureurs qui étaient différents de 0, étaient dopés plus ou moins, puisque c'était gradué entre 1 et 10. Ce qui me choque, c'est ça. D'abord, c'est de constater qu'il n'y a que le cyclisme qui ose faire connaître ces listes-là, parce que j'aimerais bien qu'avant Roland-Garros, on ait aussi les indices de tous les participants à Roland-Garros, puisque dans tous les sports, il y a des passeports biologiques. J'aimerais qu'on ait tous les contrôles.
Alors là, laissez-moi vous dire
rugby,
c'est vous qui êtes complètement malhonnête, hein, Pierre Salviac, hein, parce que c'est pas le cyclisme qui a souhaité faire connaître cette liste. Hein. Il y a eu des fuites au sein de l'UCI, hein, c'est un travail journalistique derrière.
Et que le même travail de journalistique soit fait pour les...
Alors, adressez-vous aux journalistes du monde du tennis et pas au monde du vélo.
Non, mais ça veut dire quand même qu'à la Fédération internationale de cyclisme, il y a des gens qui considèrent que ça doit faire partie de la transparence s'ils ont fait passer les listes. Alors moi, j'aimerais que dans tous les autres sports, il y a des gens qui considèrent aussi que ça fait partie de la transparence de faire communiquer ou de faire passer les listes, je te dis, avant Roland-Garros, avant la Coupe du Monde de rugby. Et dans ce cas-là, déjà, tous les sports seront mis à égalité par rapport au jugement. Après la présentation qui en est faite, je suis obligé de faire cette mise au point parce qu'elle me paraît nécessaire.
Frédéric Millet.
Moi, je trouve que ce document qui est sorti, ça prouve déjà que l'UCI met vraiment tout en œuvre pour lutter contre le dopage. On l'a vu avec ça, et de façon efficace. Parce que les paramètres qu'ils ont mis, les notes de 0 à 10, c'est en fonction des coureurs, des suspects qui sont établis d'après leurs paramètres biologiques. Et c'est quand même la première façon, le premier comment dire, résultat d'arriver à trouver les coureurs positifs. On l'a vu avec Pellizzotti, on l'a vu avec tous les autres, parce que maintenant on n'arrive plus à attraper les coureurs positifs dans les contrôles normaux. Il faut arriver à...
Ça veut dire que Frédéric Millet, le passeport biologique, a fait ses preuves.
Oui, et jusqu'à présent, il a réussi à sanctionner Valjavec, Pellizzotti, plein de gars, qui, de fait, ont été exclus, ont été sanctionnés de dopage, et on vient de voir...
Et Vinokourov, et Basso,
et
Di Luca.
Et bien, tout cela n'ont pas été...
Tous ces coureurs qui ont été contrôlés positifs à l'EPO Serra, Errico... Tout qui ça. Pourtant passait le.
On fait. Il était sanctionné, Rico.
Oui, non, mais
tout ça, ça a été avant.
Ils étaient également soumis au passeport biologique.
Ah oui, mais c'était avant. Il n'était pas aussi efficace qu'il a l'air de l'être maintenant.
Ah bon?
Mais attention,
là justement, le problème,
c'est que. Je peux réagir là-dessus?
Oui, Nicolas Perçu.
On parle d'efficacité du passeport biologique. Tout ce qui a été fait au niveau du passeport biologique, je trouve ça très bien. Ce que fait l'UCI, c'est très bien. Je ne veux pas revenir là-dessus. Simplement, si cette liste était si fine que ça. Pourquoi Popovic et Barredo, qui sont à 10, n'ont pas été chopés sur le Tour de France?
Parce que justement, ils n'ont pas eu.
Pourquoi?
Parce
que à l'instant donné du Tour de France, quand ils ont été contrôlés, s'ils ont été contrôlés, ils n'étaient pas positifs. Point barre.
Voilà.
C'est pas parce que des indices pris en cours de saison font apparaître qu'à un moment donné, tu es suspect, que tu l'es nécessairement à l'heure du Tour de France.
Bien sûr,
donc si tu ne l'es pas nécessairement à l'heure du Tour de France, malgré cet indice-là. Je vois pas pourquoi tu serais sanctionné.
Enfin, c'est ça qui est bien dans ce passeport, c'est-à-dire que ils constatent des irrégularités. Après, ils ont pas pu la prouver le jour J, mais le gars qui présente plusieurs irrégularités, il est quand même sanctionné dans le collimateur.
C'est un indice pour mieux les suspecter.
C'est-à-dire que prioritairement, ils iront contrôler ces
gars-là. Vous êtes favorable à ce genre de liste?
Oui, tout à fait.
Il y a des indices.
Ah non,
Nicolas Pertuis.
Favorable à la lecture, à la divulgation de la liste ou favorable à la liste pour les gens de l'UCI?
Non, favorable à l'authenticité de cette liste et non à la divulgation.
L'authenticité, bien sûr. C'est un moyen de travail.
La divulgation, non, parce que c'est secret médical de toute façon.
D'accord. Nicolas Pertuis.
C'est très compliqué. C'est compliqué maintenant de lire cette liste parce que forcément, à partir du moment où on a cette liste sous les yeux, et personne ne pourra dire le contraire, on a quand même vu des coureurs avec un correspondant à un chiffre. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi que ce coureur fasse demain, on y pensera toujours. Et ça, c'est pour toujours. Ça, il ne faut pas revenir là-dessus. Il ne faut pas nous faire croire autre chose.
Et calomnier, il reste
maintenant,
un jour,
je ne dirai pas de nom. Mais moi, je connais des coureurs français qui sont dans cette liste. Et pour les connaître avant que cette liste soit parue, je sais que ces coureurs-là ont des taux d'hématocrite naturellement élevés. Donc, je me pose la question, quels sont les vrais critères?
C'est quand même toujours l'exception, ça, les taux d'hématocrite.
Non, pas tant que ça.
Il y en a qui se sont exprimés là-dessus. Justement, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, je vais attendre de voir les réactions. On a vu que ceux qui étaient incriminés, il y en a qui courent plus, genre Moreau qui était incriminé.
Enfin, il est passé par Festina. Hein.
Voilà. Mais en dehors de ça, je me suis dit, je vais voir les défenses. Parce que moi, j'ai vu un coureur dont ça m'étonnait, c'est le petit Cyril Gauthier qui était à 5. Mais tout de suite, il y a une réaction. C'est-à-dire que tout de suite, je ne me rappelle plus si c'est Bernaudot ou quelqu'un de l'entourage, a dit oui, à ce moment-là, il avait eu des problèmes et tout ça. Et ça expliquait. Et Bernaudot a dit au contraire, c'est très bien ce parcours biologique, puisque. Quelque part, le fait qu'il soit 5, ça prouve qu'il y avait eu des...
Quel moment, parce que c'est avant le Tour de France, mais donc ça peut être cet indice de 5, il l'a peut-être depuis 2 ans. Hein.
Bernaudot l'a excusé.
Donc je trouve ça génial.
C'est pas le témoignage de Bernaudot qui est intéressant dans cette affaire-là. C'est le témoignage, on va dire, des spécialistes, des médecins, des professionnels de la profession, comme on dit. Et là... À la lecture de leur témoignage, je me suis rendu compte, et je le rapporte, que de 1 à 5, ils considèrent qu'il n'y a rien de grave, et que c'est à partir de 7, 8...
Non, 5, voire... ils disent de 5, mais bon,
c'est une échelle. Que c'est vraiment à prendre en compte, plutôt à partir de 7, 8, 9, 10. Donc, ça veut dire que les spécialistes interrogés sur les effets... La portée de ces échelles, de ces indices, ne sont pas d'accord déjà entre eux. Mais je préfère avoir l'avis d'un spécialiste qui me dit « Bon, à partir de 7, 8, 9, on peut se poser des questions » que l'avis d'un directeur sportif, voire d'un coureur, qui va me dire « Ah bah oui, mais à cette période-là, ce n'est pas anormal parce qu'il était malade ou parce qu'il avait besoin de se soigner. » Voilà. Mais ça, c'est aussi dans l'enquête de l'équipe. Faut pas l'oublier. Parce que si on dissocie tous les articles de l'enquête de l'équipe pour aller chercher que ce qui nous intéresse, pour démontrer ce qu'on veut démontrer a priori, on est dans le cas de Mediapart par rapport à l'affaire des quotas, on est à nouveau dans le parti pris.
Alors, on va arrêter l'hypocrisie et on va dire les choses clairement. Cancellara, Fabien Cancellara, peut-être un des meilleurs coureurs de classique.
Oui.
Zéro.
Oui, mais son vélo est à zéro.
Alberto Contador, incontestablement le meilleur coureur sur les courses par étapes. Il est à combien, messieurs?
4 ou 5.
Non, 4, je crois pas. Non, non. Non.
Il est à 5.
Armstrong était à 4.
Voilà, Armstrong est à 4.
Parmi les grands leaders, moi, celui que j'ai vu, c'était Menchoff qui était à 9.
Alors, Menchoff à 9. Ouais.
On va se concentrer sur l'indice 0 de Cancellara. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Est-ce qu'on pourrait imaginer
que ces paramètres sont tout à fait normaux tout au long de l'année?
On est d'accord.
Combien de contrôles biologiques a-t-il eu par rapport à d'autres?
Oui, parce que lui, il était 5.
Et à l'occasion de ces contrôles biologiques, il n'y avait rien d'anormal. Ça ne veut pas dire que pendant le Tour de France, à plus forte raison s'il n'a pas été contrôlé parce qu'il n'était pas dans les trois premiers.
Ouais, mais il était leader au maillot jaune tout le temps, il a toujours été contrôlé.
Non, mais, mais peut-être qu'à un moment donné, il est plus contrôlé. En tout cas, pendant la période de contrôle,
six mois
il
avant.
N'a pas, et même pendant la période de contrôle dans le Tour de France, parce que le passeport biologique, c'est un contrôle sanguin, etc. Les contrôles dans le Tour de France, c'est un contrôle urinaire, hein, d'accord?
Non, sanguin également.
Oui,
sanguin,
en plus, urinaire en plus.
Oui.
En plus, le total. Bon, ben, il faut constater, et c'est comme ça que je décode le zéro, c'est que, avant le Tour de France, il était à zéro. Pendant le Tour de France, tous les contrôles qu'il a subis ont débouché sur...
Négatif.
Du négatif. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le...
Et vous avez remarqué que tous les Français, comme par hasard, sont tous dans des tranches basses.
Est-ce que ce ne sont pas les meilleurs coureurs du peloton qui ont un vrai staff autour d'eux, avec des moyens financiers importants pour pouvoir, pourquoi pas, payer des chercheurs, des médecins à leur côté, qui peuvent
passer
au travers des mailles du filet et s'en sortir et se retrouver avec un indice particulièrement bas?
Mais non, justement, c'est justement le cas de Menchoff. C'est ça que j'ai trouvé très bien dans cette liste. C'est-à-dire que... si on part de cette hypothèse où que les gars, effectivement, tous les coureurs qui ont vraiment beaucoup d'argent peuvent mieux se soigner, là, on voit que Menchoff, c'est pas un coureur qui gagne peu d'argent. Donc, il pourrait, s'il avait les moyens, comme vous dites, d'être soigné par quelqu'un de compétent. Là, on voit qu'il est neuf, là où d'autres coureurs sont à 0, 2 et tout ça. Donc, moi, je me dis, bah voilà.
Nicolas Pertuis.
Moi, il y a quand même un problème qui se pose. Faut dire les choses. Faut arrêter de se mentir. Avant que cette liste paraisse, je suis persuadé que nous tous autour de cette table, quand on parlait de Menchoff, on avait tous un petit sourire qui arrivait au coin des lèvres en disant c'est un gros dopé.
Ah.
Mais pas pris.
Attendez. Maintenant, on a cette liste. Donc, ça vient.
Appuyez
ça.
Pas nécessairement.
Mais tout ça, messieurs.
Dans le micro.
Dans le micro, c'est mieux. Avant d'avoir cette liste, Menchoff, c'était quoi? C'était ce qu'on avait entendu, des bruits de poubelle de je ne sais pas où.
Exactement.
Voilà. Donc, cette liste, elle vient confirmer des choses sans être certaine. Et ça, c'est quand même un peu emmerdant quelque part.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
Prenons juste l'exemple d'Armstrong, qui est le plus surveillé de chez surveillé en cette année de Tour de
qui
France.
Qui était, on fait tout ce qui était avant le Tour 2010.
Ouais. Le plus surveillé de chez surveillé. Il se sait surveillé, il est très surveillé, il est très contrôlé, le plus contrôlé de tous, il est quand même à 4. Donc, à un moment donné, il n'est pas plus con qu'un autre. Se sachant surveillé, il va quand même pas prendre le risque. À mon avis, je vois pas l'intérêt qu'il aurait eu de prendre le risque, la dernière année de sa carrière, de se faire virer du Tour de France pour contrôle positif. Et pourtant, il est à 4. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans les contrôles intermédiaires, donc passeport biologique, etc., eh ben oui, il y a 4. Eh ben 4, d'après les spécialistes, c'est pas grave, c'est pas important, et faut pas en déduire que c'est chargé. Donc, faut se méfier aussi de ces indices.
Au contraire, moi, je trouve que le fait, justement, d'avoir cet indice... On n'a que des bruits de chiottes partout, ou des indices à la con, en disant « Ah oui, vous avez vu, quand c'est Lara, il pédale plus vite que les autres dans une côte, et puis il y a un autre, ceci. » Ça, c'est du n'importe quoi. C'est des impressions visuelles. Les seuls qui peuvent dire quelque chose, parce qu'il est évident que les coureurs qui se dopent vont le dire à personne, les seuls qui peuvent être au courant de ce qui se passe, c'est les médecins. Or, là, c'est l'avis des médecins. C'est l'avis des gars qui suivent les profils du sang. Donc, s'il y a vraiment un truc à prendre en compte, c'est eux, plutôt que les équipes, plutôt que les dires des coureurs, plutôt que les réputations qu'on voit tout le temps sur la toile en disant bah, « lui, il a dominé, donc forcément, c'est louche ». Non, là, c'est l'avis de médecins. Et qui est plus à même de juger les gens que les médecins, je vois pas. C'est pas les journalistes, c'est pas les directeurs sportifs, c'est pas les autres coureurs, parce qu'évidemment qu'un coureur qui se dope, il va pas le faire devant les autres.
Et encore une fois, je rappelle que cet indice publié par Journal de l'Équipe, et Nico, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus au moins, cet indice publié par Journal de l'Équipe, ce n'est qu'une indication donnée à ceux qui sont chargés de faire du contrôle pour surveiller plus ou moins les grands cyclistes.
D'ailleurs, à la base, sur cette liste, il y avait des annotations avec chaque coureur, avec lui à contrôler plus au niveau sanguin, lui à contrôler plus au niveau urinaire. Donc c'est... Mais on est bien d'accord. Mais une fois qu'elle est sortie, cette liste, Pierre, maintenant, nous... Ça nous dit indirectement, on a des visions positives ou négatives par rapport à un coureur, oui. Et ça on l'aura pas. Mettez-vous à la place de Cyril Gauthier. Mettez-vous à la place d'un coureur qui a 8 ou 9.
Mais c'est à nous de faire de la pédagogie.
Non, parce que Gauthier, il s'est défendu. Et
il s'est défendu
de
quoi? Il s'est défendu comment?
Mais tu sais lire le journal, c'est marqué dans Bernodo. Donc
mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce qu'il dit, Bernodo? Ça veut rien dire.
Mais
c'est même pas Bernodo, c'est Madio qui a défendu Gauthier d'ailleurs.
Mais c'est à nous d'expliquer aux auditeurs.
Je comprends pas, moi, les éditeurs. C'est quand même simple. À un moment donné, il y a des trucs qui sont écrits noir sur blanc. Donc, soit vous les croyez, soit vous les croyez pas.
Et
c'est pas compliqué.
Et c'est à nous de décoder pour les lecteurs, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, des statistiques qui nous sont données de manière brute. Et c'est ce qu'a très bien fait, je le rappelle, c'est ce qu'a très bien fait le journal L'Équipe, qui ne s'est pas contenté de donner une liste, qui a apporté des explications, qui a donné des éléments pour qu'on apprécie, en bien comme en mal, ces statistiques.
Nicolas Pertuis.
On est bien d'accord. Alors, Nunchantini qui a 8.
Eh ben voilà, cas typique. Alors, on va parler de ça.
L'avenue.
Qu'est-ce qu'il a fait, l'avenue?
Ah ben je vais me renseigner.
Eh ben oui.
Je vais me renseigner.
Mais c'est ça qui est génial.
Comment ça va se passer pour Comment ça va se passer pour Nunchantini quand il va renouveler son contrat? Ah ben mon petit gars, je te rappelle que t'as un indice de 8, donc on va te baisser ton salaire. C'est comme ça que ça va se passer concrètement dans la réalité.
Si Nunchantini a quelque chose à se reprocher, je trouve ça génial.
Mais est-ce que t'en es sûr? Est-ce que t'en es sûr?
Et justement, ça donne la suspicion. C'est ça que je trouve génial.
C'est génial pour toi, mais c'est pas génial pour le coureur.
Si Nunchantini a un indice de 8 au départ du Tour de France 2010 et qu'il avait un indice de 4 trois mois plus tôt, effectivement, on peut se dire qu'il y a quelque chose de suspect. C'est-à-dire qu'il s'est préparé en perspective du Tour de France. Parce que c'est pareil. Encore une fois, cet indice, il est à l'heure du coup d'envoi ou du départ du Tour de France, il faudrait peut-être le comparer à un indice 3 mois plus tôt, voire 4 mois plus tôt.
Effectivement,
l'indice est spectaculairement différent, là, on peut commencer à tirer des conclusions.
Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que le vrai problème dans cette affaire, c'est que cette liste soit effectivement sortie et qu'on ait pu avoir accès à cette liste. Ça, c'est le vrai problème. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des dérives et il y a des vraies suspicions. Quand Frédéric Millet, vous dites, c'est génial parce qu'il y a suspicion sur certains coureurs. Suspicion. Pourquoi c'est génial? Parce que ça ne peut apporter que des dérives. Si on a confirmation d'un dopage avéré, d'accord, c'est génial. Mais en l'occurrence, là, on ne l'a pas aujourd'hui. Ni Lucie.
Justement, Manu, on prend le cas de Nunchantini ou Menchoff. On a vu qu'ils étaient suspectés. Soit ils apportent des preuves et ils peuvent le dire oralement en disant « bah voilà,
mais moi comment apporter des preuves sur une suspicion ?» Mais on apporte des preuves sur une réalité, sur un contrôle.
Les suspicions, elles sont faites sur les bilans sanguins. Donc,
mais vous savez très bien que les bilans sanguins, ils peuvent évoluer de manière tout à fait naturelle.
Bah c'est une stat.
Tout à fait naturelle.
Vous partez
3 semaines en montagne, votre taux d'hématocrite augmente. Après une course arrêtable, vous êtes particulièrement fatigué. Vous arrêtez 3 jours, ça remonte. Ah, vous êtes suspecté.
Manu, c'est le cas pour tout le monde. Ils sont tous dans le même bateau.
Parce qu'il y a des coureurs français qui restent chez eux, qui ne font pas des préparations en altitude, qui enchaînent les courses sans essayer de planifier une préparation pour recharger, refaire les taux, comme on dit, avant une épreuve. C'est pas aussi simple que ça.
On fait un débat sur des statistiques qu'on présente comme étant des éléments de suspicion. Moi, je suis désolé. Il s'agit, je te dis encore une fois, et je le rappelle à un moment donné, de faire le constat qu'effectivement, entre 0 et 10... il y a des coureurs qui sont hiérarchisés. Mais est-ce que, encore une fois, 6 mois plus tôt, ils étaient avec ces mêmes chiffres-là? Est-ce que 3 mois plus tard, ils sont avec ces mêmes chiffres-là? Donc, il faut la prendre, la photo, au moment du tour. Point barre.
Réaction de Patrick Chassé. L'Association internationale des groupes cyclistes professionnels a rappelé donc la semaine dernière que l'indice était également indexé à la performance dans le cas de Cancellara. Ce n'est pas visiblement le cas.
Je trois petits rien points. À ça, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'indice,
ah bon ça veut dire que l'indice est également indexé sur la performance en fonction de la performance des coureurs. Que l'indice peut évoluer ou régresser en fonction des performances avérées des coureurs. C'est-à-dire que quand Cancellara fait un numéro énorme, oui. Bah peut-être qu'on peut suspecter encore un petit peu davantage et l'indice augmente.
Ben ça prouve bien que ce n'est qu'une indication.
Mais non, justement, ça veut dire
qu'on prend... que ce n'est qu'une indication, et ça ne veut pas dire. Attendez, et la preuve, c'est qu'il ne se fait pas prendre.
Oui, c'est qu'une indication, mais vous vous souvenez des numéros qu'il nous a fait sur le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix en 2010.
C'est son vélo, je
t'ai
téléchargé.
Ah oui, c'est son vélo, et il a un indice à zéro, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les performances réelles.
Mais c'était deux mois plus tard, peut-être qu'au moment des fameuses courses en question, son indice était à 5 ou 6.
Non, là, je suis tout d'accord avec ce que vous dites.
Le passeport, c'est bien contrôle régulier, non?
Ça, c'est sur les deux dernières années, l'indice, donc c'est pas dans les trois mois.
Mais il évolue, l'indice, quand même.
Il peut évoluer, forcément.
Il y a plusieurs contrôles, quand même, dans
mais il évolue pas deux semaines avant le départ du dernier Tour de France, Per Selvéac.
C'est global. Combien il y a de contrôles?
C'est une photographie à long terme.
Combien il y a de contrôles?
Ils sont contrôlés à Cancellara, je crois qu'il est contrôlé plus de 50 fois dans l'année.
Bon, et l'indice, en 50 fois, il peut pas changer.
Eh ben, apparemment, ça tombe.
Parce que justement, si tout au long des contrôles, si on voit que son profil sanguin est toujours bien...
C'est ça qui est étrange. Quelle crédibilité?
Non, si il est à zéro au moment du Tour de France de 2010.
Non, ben c'est ça que vous voulez pas comprendre, Pierre. Non.
Eh ben, ça prouve bien.
Bah alors là,
si c'est comme ça. Une chose.
Non. Alors regardez. Alors je vais vous dire, vous avez rien compris. Alors vous, depuis le début de l'affaire, vous avez rien compris.
Le débat, c'est là le problème.
Le problème, c'est là aujourd'hui.
C'est grave.
C'est ça qui m'embête aujourd'hui.
Ça prouve bien que vous êtes grave, oui.
Juste la Pertuis. Deux minutes. Juste pour dire, c'est un gros problème parce que là, on a vu que Cancellara était un indice zéro. Donc pour tout le monde. Cancellara n'est pas dopé. Donc, pour ceux qui sont entre 6 ou 5 et 10, pour tout le monde, aujourd'hui, ils sont dopés. Et c'est là la dérive du... Mais je sais bien. Je sais bien, Pierre.
L'indice, c'est... On doit contrôler celui-ci plus que celui-là. Ça, c'est tout ce que ça veut dire.
Je sais bien. Mais pour les gens, ça ne veut pas dire ça.
Mais c'est à nous de l'expliquer. Et c'est
pas
la
connerie
de Manu.
C'est
vrai.
Non, la moitié de la boîte fumée.
Qui vont expliquer aux gens ce que veulent dire.
Alors l'indice. Écoutez, si il vous êtes en train de nous écouter, ne croyez pas les idiots, les inepties que sont en train de raconter, Pierre Selvéac, parce qu'il tente, depuis le début de cette émission, de me décribiliser, ce qu'il n'arrive pas, surtout quand on écoute, parce que c'est un vieux roublard, vous savez, il sait extrêmement bien manipuler la parole, et avant d'être crédible, il essaie de décribiliser les autres. Voilà la tactique de Pierre Selvéac, il est découvert.
Après. Non, Valverde.
Tout ça pour vous dire Si vous pensez, Pierre Selvéac, que c'est une photographie sur l'instant T, c'est-à-dire au début du Tour de France, vous n'avez rien compris à l'affaire.
Sauf que j'ai lu rien compris à l'affaire. En entier. Ah,
ouais,
de la première à la dernière ligne.
Et moi, peut-être.
Non,
oui, c'est
pas.
Ça. Manu, Frédéric Millet.
Je vois une remarque là de Patrick Chassé qui dit, on en revient à ce que tout à l'heure, les directeurs sportifs voulaient être au courant de cette liste. C'est quand même bien. C'est parce que comment lutter contre le dopage? On prend le cas qu'évoquait Nicolas. Nocentini. Moi, je ne connais pas. Et apparemment, Vincent Lavenu a un médecin, mais tout le monde n'est pas au fait de ce qu'il faut faire.
Ou
et tout le monde n'est pas médecin pour analyser.
Croyez-moi, du côté de chez AG2R, la mondiale, avec Eric Bouva, il a la main mise sur le médical. Oui. Et voilà. C'est lui qui prend les décisions avant Vincent Lavenu.
C'est justement pour ça qu'il lui a dit, il voit qu'il y a un problème dans sa liste, il y a un coureur qui effectivement un indice élevé. Donc il va dire
et
à son médecin,
il dit pourquoi, qu'est-ce que t'as fait,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui explique cet indice suite. Et après, ce que dit, il va peut-être perdre de la valeur et tout ça, mais peut-être qu'il va perdre de la valeur, il y a peut-être une raison aussi derrière. J'en sais rien, peut-être qu'au contraire, il va s'excuser, enfin expliquer pourquoi il a un indice élevé. C'est pour ça que c'est bien cette liste, parce que le gars qui, moi si j'étais en cause, si j'avais 7 ou 8, je dirais bah oui, pour telle ou telle raison, voilà ce qui s'est passé. Comme l'a fait Gauthier, comme l'a fait, je ne me rappelle plus, il y a un autre coureur qui a expliqué sur le fait qu'il était
quoi,
comme
Gauthier
ça.
Alors dis-moi ce qui a été dit sur Gauthier, parce que ça m'intéresse, parce que Gauthier, il a sorti des chiffres, des taux d'hémoglobine et tout ça pour l'expliquer.
Exactement, le médecin Bernaudot a dit, moi je sais pourquoi il était à 5. En gros c'est ça,
oui, mais alors,
il savait pourquoi. Voilà. C'est-à-dire
alors,
que
oui, ça suffit de dire ça.
Ça le suffit lui pour le directeur sportif. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, Gauthier moi je ne le prends plus parce qu'il est à 5. Il a compris pourquoi il était à ce chiffre-là, et donc il va lui faire confiance. C'est là où je dis que Nicolas,
en tout cas,
il a pas raison, parce que Nocentini, ça se trouve, il va être absous dans cette histoire.
À l'UCI, faut trouver la taupe.
Non, la taupe.
Bon, allez, la taupe, elle pousse au trou. Et quand une taupe pousse au trou, on dit chez moi, la merde n'est pas loin.
Allez, midi passé de 27 minutes. On va consacrer les dernières minutes de cette émission à la disparition. Malheureusement, on va laisser cette affaire de côté. On redevient sérieux, évidemment. La disparition de Wouter Weiland, décédé lors de la troisième étape du Tour d'Italie. Et l'ironie du sort, c'est qu'il avait remporté tout simplement cette étape il y a un an plus tôt. Je veux juste avoir la réaction de Nicolas Pertu à l'annonce, évidemment, de la disparition de Wouter Weiland. Annonce terrible, hein. On peut rappeler les circonstances de ce décès. Malheureusement, il était dans une descente. Alors, on a quelques éléments. Apparemment, il s'est retourné, il a heurté un muret sur le côté avec sa pédale et puis il s'est retrouvé à terre. On a vu des images très rapidement. On a été évidemment inquiétés, hein, lorsqu'on a vu il y a eu un massage cardiaque de pratiquer. Puis on a eu la nouvelle un petit peu plus tard. Quelle a été votre réaction, Nicolas Pertu, lorsque vous avez appris le décès de Wouter Weiland?
Ma réaction personnelle,
oui,
à moi.
Oui, oui.
Bah, écoutez. Je vais peut-être choquer en disant ça, mais c'est triste pour le monde du vélo. Maintenant, à titre personnel, moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est comme un footballeur faire un arrêt cardiaque sur un terrain de foot. On pense à sa famille, bien sûr. Mais à titre personnel, je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré. Ce n'est pas vrai. Donc, triste pour le monde du vélo, triste pour l'équipe Trek Léopard et aussi pour la Quick-Step qui a longtemps eu ce coureur dans ses rangs. Mais une pensée pour son épouse qui attend un enfant. Oui, là, je suis triste pour ça. Maintenant, à titre personnel, je ne le connaissais pas. Donc, je ne vais pas vous dire, j'ai pleuré. Alors, à chaudes larmes.
Pierre Savic.
Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé que, contrairement au footballeur, quand un cycliste est à terre, c'est que c'est grave. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. La deuxième, c'est que ça nous rappelle que le cyclisme est un sport d'extrême. C'est un sport extrêmement dangereux. C'est un sport qui fait des victimes dans l'exercice de la profession de coureur cycliste. Et je me dis, en faisant ce constat-là, c'est peut-être la raison pour laquelle, malgré toutes ces campagnes visant à faire prendre les coureurs cyclistes pour des drogués, le grand public, lui, fait la part des choses et admire les coureurs cyclistes parce qu'ils font un métier dangereux, qu'ils en connaissent les risques, et que dans ces circonstances-là, ils savent très bien que malheureusement, ça fait partie des risques, et que malheureusement, malgré les risques, la course continue.
Frédéric Millet.
Moi, j'ai envie d'évoquer la fatalité, le destin. Je veux dire, il y a des risques, il y en a des millions de choses comme ça. Des fois, c'est le destin, voilà. Il y en a qui... on a vu Voigt, rappelez-vous, au Tour de France, ça aurait pu être aussi grave. Voigt, qui, 3 semaines à 1 mois après, il repart. Il n'y a pas d'autre chose de dire que le destin. On ne peut pas effectivement aller vers un risque zéro. C'est comme quand il y a un accident de scooter, comme quand il y a. Il n'y a rien à faire contre ça, quoi. C'est le destin.
Et une pensée évidemment donc pour la famille de Wouter Weiland. Et Nicolas le précisait, c'est vrai que sa femme attendait un heureux événement, donc l'arrivée d'un bébé en septembre prochain, je crois. Donc voilà, on voulait avoir une pensée tout de même pour ce coureur décédé tragiquement bien trop tôt sur les routes du Tour d'Italie. Et bien sûr, une forte pensée pour toute sa famille. C'est la fin de cette émission. Rien à rajouter, Pierre Salvac?
Si, justement, ne prenons pas le risque d'envoyer. Dans un col à la con, un deuxième coureur à la mort.
Allez, ce sera peut-être l'occasion d'un second débat la semaine prochaine dans Carrément Vélo. Même rendez-vous, 11h30, 12h30 avec tous nos spécialistes. Je remercie Frédéric Millet, je remercie Pierre Salviac, je remercie Nicolas Pertuis et tous les spécialistes, également les intervenants, parce que vous êtes également des intervenants, si j'allais le faire, effectivement, de Carrément Vélo, mais pas que Patrick Chassé, tous les auditeurs qui n'hésitent pas à réagir et à débattre avec nous, et ça nous fait bien plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment.
Les gars. Si vous êtes 10 000, vous savez ce qui se passe, c'est pas une heure de débat, c'est une heure et demie, et une heure et demie de débat avec Manu Barthes, je peux vous dire ça n'a pas de prix.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vélo, Carrément Vélo.